Bonjour tout le monde, c'est Angelo Rubino. On filme aujourd'hui l'épisode 4 de notre podcast Un Expresso avec Angelo, qui est disponible et très facile à retrouver sur plusieurs plateformes. Cliquez rubinoshoes.com/Spotify/Apple/YouTube. Allez mettre un petit commentaire, un petit like, c'est super apprécié. Namasté. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Nicolas Roubaud, qui est vice-président développement et marketing chez La Ruche. C'est un organisme à but non lucratif qui est spécialisé en financement participatif. En quelque sorte, c'est notre Kickstarter à la québécoise, mais encore plus. Alors, on va en parler tantôt. Bonjour, Nicolas.
Hey, bonjour, Angelo. Merci de m'avoir. Écoute, je suis super content d'être là. Quand tu m'as parlé d'un espresso, moi, je bois du café constamment, fait que j'ai vraiment aimé l'invitation.
Ben c'est ça, là. Ben ouais, on a notre petit espresso. On va faire la dégustation parce que aujourd'hui, le café, c'est de café foncé.
OK.
Donc, on m'a envoyé ça, c'est une compagnie québécoise. J'ai reçu ça en 2 jours. Fait que là, on fait la promotion d'un café qui est ici, d'ici, là, une marque café foncé. Donc, on goûte à ça. C'est quand même très bon.
Ouais.
Toi, es-tu un fan de café, Nicolas?
Oui. Écoute, ma blonde est complètement déçue de moi parce que je bois 6 à 7 cafés par jour. Fait que, tu sais, c'est comme un running gag. Là, t'es rendu à combien de cafés aujourd'hui? Mais moi, je bois café espresso, pas de lait. Fait que ça me convient parfaitement.
Donc, l'émission était faite pour toi, Nick?
Faite pour moi. Là. C'était comme un marketing qui me parlait. Là. J'étais à distance, j'étais comme « I gotta participate ».
Fait qu'avant de parler de La Ruche, là, j'aimerais ça apprendre à te connaître. Tu es aussi le fils d'un immigrant.
Oui.
Ta mère est chilienne, ton père est australien.
Oui.
Ça, c'est pas mal cool. Ton nom de famille est italien.
Oui.
Fait que c'est quoi exactement ton background?
Écoute, je suis un melting pot. Quand il y a les Olympiques, je suis content pour plein de pays différents. Fait que, oui, c'est ça. Ma mère est chilienne, est d'origine italienne aussi. Et mon père, australien, est d'origine italienne. Ce que, pour la petite histoire, il paraît que mon arrière-grand-père voulait aller aux États-Unis, puis s'est trompé de bateau, America, Australia, puis est allé sur le mauvais bateau, puis s'est retrouvé en Australie, puis là, c'était loin. Fait qu'il a fait sa vie en Australie.
Mais la diaspora italienne qui est partout dans le monde, il y a comme encore plus d'Italiens alentour du monde qu'en Italie. On a aussi d'autres points en commun au niveau de notre parcours professionnel un peu. On s'est connus parce que tu as travaillé dans le domaine du droit, entre autres Davies, Wards, Phillips et Weinberg. On va dire un petit shout-out à Léon Moubayed.
Ben oui, salut Léon.
C'est un très bon ami à moi. En fait, mon meilleur ami. Tu as travaillé comme directeur national senior des clients et marché planificateur stratégique chez McCarthy Tétrault.
Ouais.
Donc, tu as été dans le domaine juridique
au
niveau du marketing. C'est quoi que tu faisais exactement?
Écoute, j'aidais vraiment les avocats à penser à comment aller chercher des nouveaux clients. Tu sais, on s'assoyait à penser à des stratégies, que ce soit en lien avec les besoins des clients, en lien à se rapprocher des clients. Tu sais, à la base, c'est une business de relations, les services juridiques, et une business de confiance. Il faut que tu aies confiance dans le bureau avec qui tu vas faire, la confiance en l'avocat que tu vas faire. Il n'y a personne qui appelait chez McCarthy pour dire « Hey, allô, réception, j'ai une transaction de 100 millions de dollars, à qui je peux parler? » Non, tu connais déjà la personne parce que tu as établi un lien de confiance. Il y a quelqu'un qui t'en a parlé. Puis
ça, la référence dans ce domaine-là est gros, est très,
très, très gros.
Très, très gros.
Nous, le but, c'était de mettre en évidence leur expertise, leur expérience dans le marché, puis aussi de les mettre en relation, de créer des relations. Donc, il y avait beaucoup d'événementiels avant pandémie. Fait que là, je ne sais pas comment…
On s'est croisés dans plusieurs événements.
Exactement.
Je pense que ça faisait partie de ta job.
Exactement, ça faisait partie de ma job.
Fait que ça, c'était ça, 15 ans d'expérience dans le domaine du marketing.
Ouais.
Comment est-ce que tu vois ça en 2021, le marketing? Parce que marketing, là…
C'est très large.
C'est ça.
C'est très large. Puis tu sais, le marketing qu'on faisait dans un bureau d'avocat, c'est complètement différent du marketing que toi, tu fais.
De retail.
Exactement. Mais je pense qu'à the end of the day, ce qui se rejoint, c'est les besoins du client. Comment est-ce que tu vas… You're solving a problem. Tu as une solution pour ces clients-là, que ce soit des souliers, que ce soit des services juridiques, que ce soit ce qu'on fait à La Ruche. On essaie de matcher nos services avec une solution qui est bonne pour un prospect ou un client potentiel.
Moi, qu'est-ce que je pensais beaucoup au niveau de 2021? C'est quoi le why, le purpose? C'est quoi la raison d'être d'une entreprise? Puis quand ton marketing est comme en lien avec ça, là, c'est comme un match made in heaven.
Oui, je pense que ça interpelle de plus en plus les clients. Ils veulent contribuer à une compagnie qui a les mêmes valeurs qu'eux. Fait qu'au-delà du produit ou du service, il faut que la compagnie a des valeurs claires et nettes qui permettent à la personne de dire « je suis prête à mettre mon argent là-bas ». Fait que ça, tu as raison, je pense que c'est quelque chose de nouveau. Puis l'autre chose qui est nouveau, c'est tout l'avènement des données. Toutes les données qui sont disponibles qui permettent de cibler les clients potentiels, même au niveau des valeurs. Tu sais, les gens qui suivent des groupes d'éco-responsables ou je sais pas trop, nanana, ben là, il y a des produits éco-responsables qui leur sont pitchés. Fait que ça accélère la croissance potentielle.
Ça te permet d'avoir une publicité qui va être plus ciblée
exact.
Pour ton marché plutôt que d'aller large. Puis ça, on le voit beaucoup avec tout ce qui est digital marketing. Avant, nous, on faisait du circulaire. Fait que là, on imprimait un circulaire. Premièrement, c'était pas super bon pour l'environnement, là. Fait que là, Rubino, on était avec Publisac. Puis là, on envoyait 1,7, 1,8 millions de copies. Puis je sais pas c'était quoi le pourcentage de gens qui le feuilletaient, mais c'était très minime. Puis là, tu shootes large en espérant qu'il y ait comme 1% ouais. des gens qui vont le regarder, en plus d'être mauvais pour l'environnement. Fait que là, on a jeté ça au vidange. Puis on s'est dit, on va faire ça différemment. Puis je pense avec une conscience un petit peu plus écologique aussi.
Bien, pour enchaîner sur ce que tu as dit, tu sais, le problème avec les méthodes traditionnelles que tu as illustrées, c'est au-delà du fait que tu imprimais et que tu l'envoyais à large, tu ne pouvais pas raffiner. Tu n'avais pas assez de données pour te dire est-ce que la personne a ouvert, a encerclé mon produit puis est allée acheter. Il y avait comme, tu ne pouvais pas faire la chaîne pour aller savoir si ça avait vraiment marché. Puis c'était un peu ça le défaut, là, tu sais.
Ouais.
Si tu savais peut-être que la personne avait acheté, ben là, tu peux réenligner puis dire, OK, je vais targeter ces gens-là, je vais faire ci. Mais là, c'était pas possible. Fait que là, avec le digital, tout ça, c'est possible.
Non seulement, tu as aussi une maîtrise en marketing du HEC, tu as une mineure en économie.
Ouais.
Ça, c'est McGill.
Ouais.
Tu as étudié en histoire de l'art et littérature.
Ouais.
Mais ça, c'était en Espagne.
Ouais.
Comment est-ce que ça t'aide dans ton quotidien? Parce qu'il doit avoir quand même un lien. Là. Je pense que les gens de marketing, c'est des gens créatifs un peu. Fait que je vois qu'il y a beaucoup d'affaires. Toi, tu es très lié à l'art. Pas l'art O-R, mais art,
ouais.
A-R-T. Fait que comment est-ce que ça t'aide dans ton quotidien?
Bien, écoute, je pense que c'est la créativité, comme tu as dit. C'est aussi la curiosité. Moi, j'aime le talent, j'aime la beauté. Puis la beauté, ça me donne des idées, ça me permet d'explorer des nouvelles choses, ça me permet de connaître des nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire. Puis tu sais, c'est vrai que des fois, j'ai pris des idées que j'ai vues dans l'art, que j'ai réappliquées au travail. Je pourrais pas te dire exactement c'est quoi, mais c'est comme un melting pot d'idées qui vient puis que j'applique.
Wow! Puis en plus de ça, tu as travaillé pour une agence de l'ONU à Rome.
Ouais.
Fait que c'est comment ça de travailler à Rome?
Écoute, expérience d'une vie, je te dirais. Là. Moi, j'étais assez jeune. C'était presque ma première expérience professionnelle. Puis, il y avait un programme du gouvernement du Québec qui permet de faire des stages rémunérés dans des agences à travers le monde. Puis, j'avais comme choisi Rome. Puis, j'avais été choisi parmi plein de candidats. Et je suis resté là 9 mois. Puis, tu sais, ça m'a permis de... Tu sais, t'en apprends sur l'architecture, l'art, la bouffe. Tu as une ouverture par rapport à plein de choses. À chaque week-end, on allait voyager en Europe. On allait à Munich, à Bruxelles, à Paris, en Espagne. Fait que, ça t'ouvre sur le monde. T'sais, moi, chaque voyage que j'ai fait dans ma vie, ça m'a donné des idées. Je suis revenu comme avec l'espoir sur plein d'affaires. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ci. T'sais, sur plein d'ouvertures sur ma vie personnelle, sur la façon dont les gens vivent. T'sais, en Italie, c'est un train plus
smooth.
Plus smooth, mais il y a des choses à apprendre là-dedans, tu sais, ouais. À incorporer puis se dire, OK, je vais peut-être faire ça, lire plus, prendre une pause à ce moment-là pour me recentrer. Fait que tout ça, on l'incorpore, mais si tu le vois pas, c'est difficile. Puis, et aussi l'inverse, c'est quand tu le vois, tu le comprends. Là, tu fais comme, ah, ben oui, j'ai déjà vu ça.
Fait que ça revient beaucoup. Moi, des fois, je me dis, quand on est trop proche de l'arbre, on voit plus la forêt, ça l'ouvre nos horizons. puis d'être ouvert sur le monde, puis de voyager. Je pense que c'est ça la beauté, puis d'avoir travaillé aussi à l'extérieur, de voir d'autres choses que le Québec.
Ouais.
On a réussi avec d'autres idées puis d'autres façons de faire. Fait que ça, c'est super cool. Tu es un homme qui est très cultivé.
J'essaie.
Non, mais sans joke, tu as donné beaucoup d'importance à l'art dans ta vie. Tu t'impliques au CA de Momenta, qui est le musée d'art contemporain.
Non, Momenta, c'est une biennale de l'image qui expose au Musée d'art contemporain de Montréal, mais il expose un peu partout. Donc, c'est un événement biannuel d'art visuel. Fait que c'est vraiment, il y a plus de 200 000 personnes qui y vont à chaque deux ans. Donc, c'est à chaque deux ans. Puis là, la prochaine édition, c'est du 8 septembre au 24 octobre 2021. Mais je suis sûr que tu n'en as jamais entendu parler, mais dans le monde, organiquement, on entend parler, puis c'est exposé partout à travers Montréal. Alors, les gens, sans le savoir, consomment un peu de ça.
Ils ont été exposés à ça.
Oui, exactement.
Parce que tu es impliqué dans d'autres conseils d'administration.
Oui, ouais. Je suis aussi à l'École supérieure de ballet du Québec. Pas que je suis un ballerin, mais
tu as quand même une shape de ballerine.
Écoute, des fois, il y avait des cours là, pour les débutants, puis c'est une catastrophe là, pour moi. Là. Fait que,
mais pourquoi tu t'es impliqué là-bas? Tu as été comme sollicité sur un conseil d'administration?
Ben écoute, j'avais fait partie des jeunes gouverneurs des Grands Ballets canadiens, qui est, les Grands Ballets canadiens, tout le monde connaît ça.
Mm-hmm.
Parce qu'une amie était là-dessus, elle m'a dit, tu connais-tu des gens qui seraient intéressés? Puis j'ai dit, ben oui. Puis avec, de fil en aiguille, l'École supérieure de ballet cherchait des gens sur leur fondation. Eux, c'est vraiment une école qui traîne des ballerines et des ballerins. Je ne sais pas si on dit ballerin, mais ballerin pour devenir professionnel de ballet. Puis moi, ce qui m'a interpellé, quand la première fois, j'étais pas un amateur vraiment de ballet, mais c'est le talent. C'est comme des athlètes. C'est fou ce qu'ils font.
Ouais.
Puis avec une élégance et une grâce. Puis tu sais, tout le travail qui va derrière ça, cette discipline-là, moi, ça vient me chercher. Puis ça me pousse à dire, OK, I can do better sometimes.
On va parler un petit peu de La Ruche.
Yes.
Puis... est-ce que tu peux nous expliquer, là, dans tes mots, c'est quoi exactement La Ruche?
Fait que La Ruche, c'est vraiment un organisme spécialisé en financement participatif. Tu l'as dit un peu, tu sais, les gens parlent de sous-financement, de crowdfunding. En gros, quelqu'un a une idée qu'ils ont envie de financer avec l'aide de la population. Mmh. Fait que c'est vraiment ça le principe de base. Et les gens vont venir à La Ruche pour plein de raisons différentes. Des fois, ils n'ont pas la feuille de route d'entrepreneur qui leur permet d'aller chercher du financement traditionnel comme d'une banque, d'un Desjardins, ouais, et tout ça. Des fois, l'idée est trop novatrice. C'est comme trop edgy pour que quelqu'un leur donne de l'argent. Puis d'autres fois, ils veulent tester une idée puis ils ne veulent pas s'endetter. Fait qu'ils se disent, je vais essayer une campagne de financement participatif avec un nouveau produit. Puis si ça marche, je vais le créer.
Le socio-financement, le socio-financement, ouais, c'est quand même quelque chose de nouveau. Puis là, c'est quoi le processus dans le fond? Comme, parce que j'essaie de comprendre, on va dire là, aujourd'hui, je veux lancer une marque de chaussures.
Ouais, c'est une bonne idée.
Et puis là, je veux créer un chaussure québécois.
Ouais, ouais.
On va dire. C'est quoi le processus?
Ben, je te dirais que les gens viennent avec des projets particuliers, tu sais, à La Ruche. Donc, ça peut être un projet entrepreneurial, comme l'exemple que tu me donnes, mais ça peut être aussi un projet social, communautaire, culturel. Fait que dans ton exemple, disons que quelqu'un dit, OK, moi, je vais créer une chaussure vegan que quand elle est plus bonne, je la plante puis ça devient un arbre. C'est ça mon idée.
Wow, c'est une idée.
Tu sais, ça pourrait être ça. Fait que là, la personne, elle dit, ben là, j'ai pas assez d'argent pour finir mon prototype puis faire une première production. Fait que je vais faire de la pré-vente de mon idée avec une campagne de socio-financement, financement participatif avec La Ruche.
Mmh.
Fait que dans le fond, ils vont pré-vendre les chaussures, disons que ça coûte 100 $, mais ils vont peut-être se créer un brand aussi. OK, je vais faire des accessoires, peut-être des trucs organiques, nanana, qui rappellent mon brand, mais c'est un price point plus bas, 20 $, 25 $, pour aller chercher plusieurs items que la personne peut vendre pour aller chercher ce qu'elle a besoin pour créer ce qu'elle a besoin de créer.
Parce que c'est ça la différence,
ouais,
parce qu'on s'en était parlé.
Ouais.
La grosse différence avec Kickstarter, c'est que sur Kickstarter, tu contribues,
ouais,
mais tu n'es pas sûr d'avoir rien en retour.
Exact. Redire.
Vous, avec La Ruche, puis je dis vous,
ouais,
parce que tu es quand même vice-président,
ouais,
là,
ouais,
de développement.
Ouais.
Fait qu'on va dire vous.
Ouais.
Mais quand je décide d'investir, on va dire, je ne sais pas s'il y a un montant minimum.
Ben, en fait, c'est déterminé, excuse-moi de t'interrompre, mais
non,
c'est vraiment déterminé par l'entrepreneur puis la personne qui fait l'accompagnement à La Ruche de combien tu vas vendre ton produit ou ton service. Puis la personne, c'est une promesse de livraison de service ou de produit quand tu achètes ce qu'on appelle une contrepartie. Alors que c'est Kickstarter, c'est comme une promesse d'achat futur, puis it might not happen. Sur la ruche, c'est une promesse d'achat concrète qui s'assujettit aux lois de la protection du consommateur. Donc, la personne qui ne reçoit pas son produit peut toujours revenir contre l'entrepreneur pour aller chercher son argent en remboursement ou le produit en question. Là.
Puis à date, là, vous avez eu beaucoup de succès.
Oui, il y a eu
parce aucun… Parce qu'on lisait dernièrement qu'il y a eu plus de 100 000 contributeurs.
Oui.
Vous avez réussi à faire plus de 15 millions de dollars en crowdfunding.
Oui.
Fait qu'il y a une demande pour ça.
Oui.
Puis ça roule.
Ça roule.
Je veux dire, c'est juste des gens québécois. Il n'y a pas d'Ontariens qui viennent sur
pas
la…
Pas vraiment. Je te dirais que c'est sûr qu'un produit, ça appartient à l'entrepreneur de faire son marketing. Nous, on lui donne des outils, on lui donne des pistes, on lui donne des meilleures pratiques, mais c'est lui qui doit mobiliser son monde pour vendre. Fait que si lui, son réseau est en Ontario, là, ça peut être ça. Là. Mais je te dirais qu'en grande généralité, là, le réseau est au Québec. Mm-hmm. Il y a aussi une particularité à la ruche qui n'existe pas sur Kickstarter ou sur aucune autre plateforme. Nous, quand tu fais un projet à la ruche, il faut que ça laisse un impact local. Donc, si tu fais des « earphones », en Chine, tu les vends sur Amazon.com puis tu n'as aucun impact local, nous, on ne prend pas le projet.
Vous n'êtes pas intéressé.
Non, on n'est pas intéressé. Fait que ça aussi, ça, je te dirais qu'avec la pandémie, pour nous, notre vision et notre mission, ça a toujours été ce qu'on appelle du financement participatif de proximité, local, développement économique local. Bien, les gens, ils ont beaucoup plus allumé à ça maintenant, d'avoir cette indépendance commerciale-là. « Hey, j'aimerais ça, comme ta petite épicerie que tu viens de lancer, là, de coin. » Les gens veulent pas perdre ça. Ils veulent leur boulangerie, leur poissonnerie du coin, ils veulent ça. Mm-hmm. Puis ils sont prêts à encourager.
Du commerce de proximité. Exact. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu parles, Nicolas? C'est un projet qu'on a fait à Villeray, fraîchement bon, c'est une épicerie de quartier.
Voilà.
Avec notre beau-frère, le conjoint à ma sœur. Mais effectivement, on voit ça beaucoup. Puis c'est vrai que durant la pandémie, le mouvement acheter local, ça a été très gros. Puis moi, j'ai connu la ruche à cause de ça parce que avec Desjardins, les gens achetaient pour 10 $, puis Desjardins mettait un autre 10 $, puis là, tu avais 30 $ à dépenser, mais c'était seulement avec certains détaillants locaux.
Exact.
Puis là, il y en a eu à Montréal-Nord, il y en a eu dans Rosemont, il y en a eu. Je sais pas si tu peux nous en parler.
Oui. Oui, fait que ça, c'est, écoute, Desjardins, c'est un partenaire extraordinaire, puis on a fait ce programme-là qui s'appelait « Du cœur à l'achat ». Puis en gros, comme tu as dit, c'était Desjardins, mais aussi, c'était dans beaucoup de villes, dans beaucoup de quartiers, qui eux aussi contribuaient à cette relance-là. Par exemple, toi, Angelo, tu achetais pour 20 $ à ton épicerie locale.
Mm-hmm.
Ben, la ville ou la Société de développement commercial local, la MRC, le quartier, donnait un 10 pour ton pouvoir d'achat. Fait que toi, tu avais 30 $ de pouvoir d'achat. Puis Desjardins donnait un autre 10 pour un organisme de service essentiel dans ton quartier. Donc, tu sais, ça peut être un Moisson Montréal, ça peut être des services de première ligne qu'il y a eu pendant la pandémie. C'était pour aider ces services de première ligne-là. Fait que ça a vraiment mobilisé le citoyen, la ville, Desjardins pour, tu sais, aider tout cet écosystème-là de proximité-là pendant la pandémie. On a fait 105 campagnes d'achat local à travers le Québec. C'est plus de 10 millions à peu près qui a été mobilisé pour des commerçants locaux. C'est fou, là, tu sais.
Fait qu'il y a des gens carrément qui ont survécu grâce à ça.
Bien, c'est une bonne… Écoute, on n'a pas de stats là-dessus, mais je te dirais qu'on a fait, on a fait partie de la solution. Tu sais, humblement, je pense qu'on essaye toujours d'avoir des idées créatives à la ruche pour aider l'entrepreneur, les commerces locaux. Puis si on a pu aider certains commerces à comme survive for a few months, bien, on est super contents.
Parce que c'est des idées novatrices.
Ouais.
C'est une plateforme qui permet de faire plus que juste je mets un produit puis j'essaie d'aller chercher du socio-financement comme durant la pandémie. Fait que ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis moi aussi, j'ai contribué en achetant des coupons. Je trouve, c'est comme ça que je vous ai connu à travers Desjardins parce que je me suis fait solliciter par Desjardins en disant « Hey, achète puis on va mettre nous aussi un 10 $
ouais.
En tout cas, tu l'as expliqué. Dans le futur, comment est-ce que tu penses que la ruche peut continuer à aider au Québec? Comme l'effervescence ou l'entrepreneuriat ou des gens qui se seraient pas lancés en affaires parce qu'ils ont été refusés
ouais.
au niveau du financement par une banque à charte ou par une caisse.
Ouais. Mais je te dirais que nous, on accepte tous les projets. Fait que, tu sais, le risque est quand même bas pour la personne qui veut essayer une idée. Mmh. Tu n'as pas besoin d'être incorporé. Nous, ça peut être un projet individuel que tu veux lancer, que tu veux essayer. Nous, on accepte des projets de coop, OBNL, n'importe quoi, tant que tu veux financer une idée. Puis nous, on t'aide à faire cette structure-là.
Donc, exact. Puis j'ai vu que si tu n'atteignais pas l'objectif global,
ouais.
Mais là, on ne va pas débiter…
De zéro.
Fait que ça, c'est cool. Fait que si moi, j'ai contribué 10 $
ouais.
dans un projet qui ne va jamais arriver,
exact.
Je ne serais pas débité de 10 $
Exactement. C'est une promesse d'achat futur sur l'item que tu as acheté. Ce n'est pas des dons. C'est vraiment tu achètes quelque chose. Fait que c'est ça qui est le fun avec le socio-financement, c'est que ça devient aussi un effet de levier. La personne qui se fixe un objectif de 20 000 pour son soulier vegan planté, puis elle a besoin de ce 20 000 pour tout créer, mais si elle a 3 000, là, elle ne peut pas créer son affaire. Fait que ça ne sert à rien. Fait que c'est pour ça que c'est un objectif fixe chez nous. Kickstarter, c'est la même chose. Puis tu sais, et aussi que nous, on a des partners comme Desjardins et plein d'autres qui, une fois que tu réussis ton 20 000 puis tu as eu 450 clients qui ont acheté ton soulier, bien…
C'est un proof of concept.
Proof of concept. C'est une étude de marché.
Il y a une demande exact. Pour ça.
Fait que nous, on a des partenaires financiers qui vont dire, « Hey, là, on va te faire un prêt, une subvention, une bourse. Là, on a vu que tu t'es mobilisé. Tu es un entrepreneur qui s'y… » Puis nous, notre risque est réduit. Fait que tu sais, ça devient vraiment, comme tu as dit, une preuve de concept importante, une validation de marché live. Fait que ça aussi, c'est intéressant pour l'entrepreneur, même pour quelqu'un qui est en croissance. On a eu un projet assez cool dans le Bas-Saint-Laurent. C'est quelqu'un qui voulait essayer, il faisait des épices barbecue, mais il les voulait se transférer à des sauces. Mais ils n'avaient pas tout l'équipement. Puis ils ont fait une campagne de 50 000. Ils ont vendu pour 50 000 de sauces qu'ils ne savaient pas. Puis ils ne se sont pas endettés pour…
Fait que là, c'est une sauce qui est faite dans le Bas-Saint-Laurent,
exact.
Local. Fait que ça, c'est… C'est ouais. cool. C'est carrément, ce que je vois, c'est que la ruche, c'est carrément une vitrine.
Ouais.
Parce que tu peux aller promouvoir une idée, un concept, un produit,
ouais.
le faire connaître. Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de visites sur votre site.
Oui, c'est à peu près 40 à 50 000 visiteurs uniques par mois. Mais tu sais, c'est vraiment en lien souvent avec les campagnes. Il y a des gens qui reviennent pour voir ce qui se passe, surtout au niveau de l'achat local. Puis tu sais, je te dirais que la différence avec ce que, tu sais, on parlait d'objectif fixe. Pour les campagnes d'achat local qu'on a fait, là, il n'y avait pas d'objectif fixe. Parce que c'est pour aider des commerçants dans le trouble. Donc, tu sais, tout l'argent récolté allait aux commerçants, mais il n'y a aucune campagne qui a pas réussi son objectif vraiment. Fait que dans ce cas-là, ça a super bien marché. Tu sais, ce qui est le fun, comme tu as dit, l'exemple de la sauce, tu sais, on essaie vraiment de laisser un impact régional fort. L'autre aspect qui est intéressant, c'est des projets qui sont non-entrepreneuriaux. Tu sais, on a eu de la réfection de parc,
réparation, ouais, c'est ça que j'ai vu, ouais.
réparation d'une église. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça crée un endroit où les gens aiment vivre. Ils ont envie d'être là, mais ce qui génère des commerces, qui génère d'autres projets. Fait que, tu sais, les gens, quand ils améliorent leur milieu, ils ont envie d'être là, ils ont envie d'être consommés là, ils ont envie de créer là, ils ont envie de développer là. Fait que tout, c'est comme un écosystème organique de développement qu'on essaie de créer là.
C'est incroyable. Ça veut dire que si moi, exemple, je trouve que la paroisse dans mon village est en décrépitude, puis je me dis, bon, mais c'est un patrimoine, là, tu sais, faudrait, je peux arriver puis partir
une campagne de
financement sur.
La
fait que c'est ça qui est cool. C'est pas juste pour des entrepreneurs. C'est place where people get together,
ouais,
puis
ouais.
on essaie de backer un projet ensemble. Puis ce concept-là, c'est incroyable. Puis j'ai trouvé ça absolument novateur. Puis ça fait quand même quelques années que ça existe.
Ouais.
Mais la pandémie vous a comme donné du vent dans les…
Bien, tu sais, pour certaines personnes, ça a été vraiment une tragédie. Pour nous, ça a été un peu une opportunité. Les campagnes d'achat local, on n'en faisait pas avant la pandémie. Fait que ça a été une nouveauté qui nous a aidé justement à se rendre un peu partout au Québec puis à être pertinent. Puis c'est ça qu'on veut être. On veut être pertinent. On veut aider le développement local. Puis une nouvelle affaire qu'on vient de lancer sur notre plateforme, c'est tu peux maintenant contribuer des services et des matériaux, pas juste du cash. Fait que disons, dans l'exemple de l'église, si le BMR du coin veut donner du bois pour cette campagne-là, il peut, puis avoir de la visibilité sur notre plateforme. Fait qu'on essaie de créer cet espace collaboratif, pas juste d'argent, mais de, tu sais, ça pourrait être des services juridiques, des services comptables, que l'entrepreneur puisse avoir plein d'affaires à plein d'options pour faire son projet.
Fait que si tu avais un conseil à un entrepreneur qui veut se lancer en affaires, là, puis on connaît le contexte actuel,
ouais.
on commence à voir la lumière au bout du tunnel,
ouais.
C'est quoi que tu lui dirais?
Moi, je dirais go, lance-toi. Tu sais, il y a plein d'opportunités qui se révèlent grâce à la pandémie, je pense. Puis ce que je vois, moi, avec les entrepreneurs à qui je parle, c'est le focus. ils ont tellement d'affaires à faire qu'ils perdent un peu le focus de ce qu'ils voulaient faire au départ. Fait que, tu sais, moi, j'essaie, quand je leur parle, j'essaie de les ramener au début. Je dis, tu sais, si tu avais 2 heures par semaine seulement pour faire avancer ton projet, c'est sur quoi que tu travaillerais? Ben là, ça t'enlève pas mal d'affaires. Tu sais, tout le superflu, tu fais que non, il faut vraiment que je me concentre là-dessus, là, sinon ça marchera pas.
Mais c'est dans, moi, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est quand tu veux te partir, là, des fois, c'est dans les petites choses que les gens ils se disent « Ouais, mais ça, c'est moins important. » C'est des fois, c'est les petites choses qui sont importantes, tu sais, pour partir, pour se faire connaître, tu sais, prendre le temps de parler à des gens, à serrer des mains, peut-être ouais, maintenant avec ouais. un peu de Purell. Mais souvent, les gens, ils veulent pas faire le legwork.
Ben c'est ça. Nous, on, la ruche, on n'est pas là pour faire le legwork de l'entrepreneur ou de la personne qui fait le projet. Fait que ça aussi, c'est un test. C'est un test pour la personne. Si la personne, elle réussit pas, ben de self-reflection, tu sais, à avoir là-dessus, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, là? Puis on apprend de ces erreurs-là, là. Je pense que ça, c'est super important, là.
On est à un expresso avec Angelo.
Yes.
Tantôt, on est allé dans notre entrepôt, on t'a donné un petit tour, comme yes. on dit, parce qu'on fait ça avec nos invités.
Très impressionnant.
Merci. Je suis super honoré que tu aies accepté l'invitation. Fait que là, tu as eu une paire de suites. Tu as yes. choisi quelque chose.
Oui, j'ai choisi des Lacoste un peu fresh. Je sors ça. Très.
Alors,
très
Nick hot. Qui nous montre ça pour les gens qui nous écoutent en ouais. balado, là. Une paire de Lacoste Nice White Sneakers ouais. qui flash.
C'est parfait pour le retour. Bientôt
des terrasses
ou tu sais de voir du monde je suis content parce que tu sais j'ai pas pu m'habiller bien depuis un an et demi là fait que là je suis bien équipé grâce à vous.
Ouais, ben écoute tu vas être un bon ambassadeur, je pense que
yes, absolument.
Puis on a aussi un segment express parce que c'est let's un expresso avec Angelo, fait que je te pose des questions en rafale.
Parfait.
Puis tu choisis, mais on peut avoir aussi des discussions.
Ouais.
On commence.
Yes.
Si je te dis Canadien ou Impact?
Ah, moi, je suis un Canadien. Là. Je suis vraiment un Canadien, là, bord en bord.
T'es un fan de hockey.
Ah oui, j'écoute tous les matchs, toutes les tribunes, tous les articles. Je suis comme, ouais, fait que je suis vraiment... J'aime l'Impact, mais Canadien, number one.
T'as Canadien tatoué sur le cœur.
Ouais, absolument.
Fait que si t'avais à choisir entre du sport ou de l'art?
Hey, ça, c'est tough. Les deux, je pense. Je te dirais que dans mon quotidien, je fais pas mal de sport. Puis mon art, c'est mon échappatoire qui est moins fréquent. Fait que je te dirais que moi, ce serait le sport.
Fair enough.
Ouais.
Le miel ou le sirop d'érable?
Ah oui, ça, c'est à cause de la ruche.
Ben oui, mais c'est sûr.
Je te dirais que moi, je suis personnellement un fan de sirop d'érable plus que de miel. Et d'ailleurs, j'ai amené un petit pot de sirop d'érable de notre PDG à la ruche. Qui a sa propre érablière. Fait que je t'offre un petit pot de sirop d'érable
merci,
maison qui se trouve dans un sac derrière nous.
Fait que c'est quoi le brand ou le...
C'est homemade.
Homemade.
Homemade sirop d'érable.
Wow, ben j'ai vraiment hâte d'essayer ça parce que ma fille Tiffany,
ouais.
elle a 6 ans, puis elle, c'est une junkie de sirop d'érable. Puis on fait toujours des pancakes, gaufres. Donc, on va tester ça. Merci beaucoup. Si je te dis, tu avais à choisir entre une soirée au musée ou une soirée au théâtre?
Musée.
Musée pour
moi.
Musée.
Ouais, je te dirais que moi, l'art visuel, les sculptures et tout ça, je ne sais pas pourquoi ça m'interpelle beaucoup. Ça me pousse à la réflexion. Puis il y a un moment de, tu sais, dans nos vies, mais c'est un peu pareil au théâtre, mais il y a une tranquillité dans les musées. Tu sais, ouais. il y a comme un silence où on n'est pas sur notre téléphone. On est vraiment avec nous-mêmes dans nos pensées à voir comment cette pièce nous inspire, nous affecte. Fait que, ouais, j'aime ce moment-là. C'est comme je médite pas, mais c'est comme mon moment de méditation personnelle.
Nice.
Ouais.
On va prendre 2 secondes pour respirer.
C'est ça.
Si tu avais à choisir entre Adidas ou Nike?
Je dirais Adidas. Je trouve ça plus edgy.
C'est vrai.
Ouais,
Nike, c'est plus performance.
Ouais, moi, je suis plus dans l'Adidas.
Fair enough. Apple ou Android?
J'ai tous mes produits Apple. Fait que.
J'ai vu la
Apple Watch. Ouais.
Ouais. Mais, fait que je m'en doutais un peu.
Mais j'ai pas vraiment comparé non plus. Tu sais, j'ai commencé avec l'iPhone puis tout ça. Fait que. Puis après, une fois que t'as l'iPhone, là, t'achètes l'autre affaire puis là, t'es un peu. c'est Apple.
T'as comme pas le choix de continuer.
They make it sticky.
Mais c'est, leurs produits là, de Apple, là, d'un point de vue, parce que t'es un gars très visuel, c'est des beaux produits.
Oui, absolument. Tout est dans le design et fabuleux. Tout est dans le design. Et dans la simplicité. Là.
Comme vous pouvez voir, là,
regardez. Ouais.
Là, j'ai mon les deux choses que je préfère.
Soulier.
Shoes and pizza. Ben ça, c'est bon, ça.
Ouais.
Est-ce que t'es plus pizza ou pasta?
Oh, very close, mais pizza.
Ah
pizza.
Ouais, moi aussi.
Il y a une nouvelle pizzeria qui est ouverte dans mon coin, Gentile Pizza. Qui
Gentile.
Venait, mais il y avait aussi un restaurant, là, mais incroyable. Je te la conseille fortement.
Mais je vais essayer ça parce que moi, là, j'adore aussi vraiment la pizza. C'est comme incroyable. Puis là, je suis dans le coin du plateau.
Ouais.
Puis là, j'ai découvert une pizzeria qui s'appelle Stella. Puis il ouvre une deuxième. Puis là, j'ai vu une des propriétaires qui est Nathalie. On s'est jasé. Puis j'étais comme, hey, c'est vraiment cool. Puis là, je dis, en plus, t'es québécoise. Puis tu fais des pizzas comme ça. Puis là, elle m'a dit, ouais, mais mon partner, c'est un Italien.
Okay.
Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que les restaurants, ils vont réouvrir.
Ouais.
Les terrasses. Fait que là, on va continuer d'encourager. Fait que c'est bon qu'on a fait un shout-out, là, parce que aller acheter des pizzas puis tout ce que vous
aimez. Je pense que la pandémie, ce que ça fait, c'est aussi, ça a révélé les gens qui ont voulu évoluer. Tu sais, tout le take-out a complètement évolué. Il y a des gens qui n'en avaient pas. Puis il y en a qui ont... Moi, j'ai parlé à des restaurateurs, ils me disent, ben je fais quasiment plus d'argent en take-out que je faisais avant, mais je vais être content quand les gens vont revenir. Mais tu sais, je faisais pas ça avant. Puis je suis content de maintenant m'avoir organisé de ce côté-là. Fait que tu sais, il y a comme des opportunités partout.
Ça nous a forcé à... Tu sais, c'est un petit peu impopulaire de dire ça, mais à se réinventer. Puis pour Rubino, ça a été un petit peu la même chose. 5 % de notre business était en ligne. Maintenant, c'est plus que 20-25 % qui se fait en ligne. Puis... Ben, ça nous a forcé à dire, tu sais quoi, ben, il faut qu'on expédie le même jour. Les gens, là, ils veulent ça. Tu sais, les gens qui achètent en ligne, là, leurs attentes sont différentes. Fait que ça nous a forcé à nous sophistiquer. Puis, tu sais quoi, les magasins ont réouvert. Les gens sont au rendez-vous, puis on les remercie. Mais les gens continuent à acheter en ligne. Fait que il y a cette synergie-là qui est comme incroyable. Puis, il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais été dans un magasin Rubino. On ne va pas se le cacher. Mais là, ils nous ont connus à travers notre plateforme rubinoshoes.com. Puis là, ils vont aux deux places. Fait qu'ils sont rendus omni-channel, comme on dit. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que la pandémie, ça n'a pas juste des points négatifs pour les entrepreneurs ou pour les détaillants comme nous. Des fois, ça te force à faire des changements.
Ben, tu sais, je pense que ça te force à évoluer. Puis, tu sais, je pense que des gens comme toi, des gens comme Desjardins ont compris ça puis veulent aider ce mouvement-là de se réinventer. Donc, tu sais, c'est là-dessus que, tu sais, on parlait d'entrepreneuriat, mais... Je pense qu'il y a plein d'opportunités maintenant qui sortent de la pandémie. Là.
Incroyable. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça que je dis aux gens. Puis, c'est soit que tu t'adaptes ou tu finis par mourir.
Exact.
Puis c'est dans ces moments-là plus difficiles qu'il y a des opportunités. C'est pas quand tout va super bien qu'il y a les meilleures opportunités puis les meilleurs deals à faire. Fait que nous, on a été en mode acquisition, on a été en mode expansion. Puis nos choses n'ont jamais été aussi bien que maintenant. Fait que, puis ça, c'est sûr que c'est grâce à nos clients. Puis aux gens qui ont dit, tu sais quoi, je vais commander d'un détaillant québécois. Puis en même temps, ben, j'ai eu un aussi bon service que si j'avais commandé ailleurs. Fait qu'on a été très chanceux, je dirais. Puis on est blessed. Puis les gens au Québec, il y a eu ce mouvement-là.
Absolument. Là. Puis tu sais, là-dessus, je te dirais que nous, on continue avec nos campagnes d'achat local. On en a une 15-20 déjà comme dans collimateur.
Ça continue.
Cet engouement-là à Verdun, ils sont rendus à leur 4e campagne d'achat local. Fait que, tu sais, puis je pense que la population a envie de continuer à encourager leur commerce pour sortir de cette pandémie, puis ultimement retourner dans ces commerces-là, tu sais, puis vivre leur vie de quartier. Je pense que c'est ça qui est important.
Bien, j'ai eu Peter Mamas, le dernier épisode. Retournez en arrière, vous allez voir l'épisode avec Peter Mamas, qui est fantastique. Ils ont comme 300 restaurants. Puis lui, il s'attend justement à ça, là, un retour des années 20. Là, tu sais, les gens
les
vont
années
sortir,
folles, ben oui,
les années
c'est
folles,
ça.
Les gens vont sortir. On a été comme un petit peu encabanés. Ouais. Puis là, c'est le retour en arrière. Fait que ce commerce-là de proximité, où est-ce que tu allais chez ton boucher, tu allais chez ton vendeur de chaussures, tu allais... Ben, c'est le retour à ça carrément. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est loin d'être mort, le brick and mortar ou le magasin physique. Je pense que c'est loin d'être mort parce que ça, les gens ont besoin de ce contact-là. Fait que c'est comme une sortie, right?
Ouais,
magasiner,
ouais.
Là, c'est devenu
exact.
Une sortie. Fait que non, moi, je pense que ça va être fort, ça va continuer à être fort. Puis les gens, ben les chaussures, c'est sûr que c'est un besoin essentiel. Là, on s'entend, c'est comme essentiel. Fait que c'est commodity. Les gens, ils vont continuer à en acheter en ligne. Mais le feeling d'aller en magasin, de pouvoir essayer différents modèles, puis tout ça, ça va rester. Puis nous, on est très confiants que ça va revenir comme aussi bon, sinon mieux qu'avant. Fait que...
Moi, s'il y a une chose que j'ai trouvé positif de cette pandémie-là, c'est justement de ramener les consommateurs à penser à l'impact qu'ils ont avec leur dollar localement. Tu sais, comme Rubino, c'est une compagnie familiale québécoise, ben de mettre ton argent là à place de le mettre sur Amazon, ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence pour les jobs ici, les jobs chez Rubino, tes fournisseurs, tout ça, toute cette chaîne de valeur-là qui est créée par une entreprise comme la tienne, ben ça a un impact partout. Puis, mais on l'oubliait.
Puis même nous, on a été conscientisés, mais le fait est que l'entrepreneur ici, là, que quand tu vas l'encourager, ben lui, il paye un loyer ici. Il y a un local commercial, il paye des taxes d'affaires, il paye des taxes de vente, il paye, tu sais, Amazon, là.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, il paye pas d'impôts, là, au Canada. Alors, c'est ça qu'on essaie de dire, mais je pense que les gens sont plus conscientisés aujourd'hui que jamais.
Mais en même temps, Amazon t'a forcé, toi, à améliorer tes façons de faire. Fait que c'est ça, tu sais, on va leur donner, comme les Uber, là, tu sais, Uber est arrivé... disrupteur complètement, mais là, toutes les taxis maintenant ont des apps, ils ont toutes des affaires de carte de crédit. Mais
avant, le service est rendu plus meilleur avec Diamond ou...
Puis tu sais, c'est ça que ça fait aussi, la compétition.
Mais moi, j'ai toujours dit ça.
Ouais.
La compétition, là, c'est bon, parce que ça t'aide à t'améliorer puis à devenir plus sophistiqué, parce que sinon, tu vas disparaître.
Exact.
C'est ça la réalité des choses. Adapt or die. Fait que ça, c'est un super bon filon, puis merci d'avoir amené ça, parce que ça me fait rappeler, puis tu sais, une affaire que j'aime, puis ça, c'est une des questions. Est-ce que tu es plus Jeff Bezos ou Elon Musk?
Jeff Bezos, je dirais.
Moi aussi.
Ouais.
Puis Elon Musk, il est un petit peu des nuages.
Ouais.
Mais Jeff Bezos, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que quand il a commencé, il a dit, nous, on va être, au lieu d'être comme driven par la compétition, nous, on va regarder nos consommateurs. C'est quoi qu'ils veulent? Puis c'est ça qui nous a fait réaliser, il faut qu'on en donne plus. T'sais, il faut qu'on soit...
Ouais.
Puis pas regarder qu'est-ce qu'ils font nos compétiteurs, mais plutôt... De redonner à nos consommateurs, à nos clients.
Oui. Mais ce que j'aime aussi de lui, c'est, de ce que j'ai lu, tu sais, je ne connais pas personnellement, mais on dirait qu'il y a une certaine humilité aussi dans sa façon d'agir. Tu sais, il a souvent dit qu'il savait que sa business allait sûrement mourir à un moment donné, que quelqu'un allait le dépasser, puis il était conscient de ça. Mais while he's here, he's trying to do the best he can pour ses consommateurs-là.
C'est exactement ça. Si tu avais à choisir entre Espagne ou Canada?
Oh! Pour vivre ou pour...
Pour vivre, pour voyager, mais si tu vis au Canada, on va dire pour vivre.
Ben moi, j'adore Montréal, j'adore le Canada. Je veux dire, moi, j'adore la vie qu'on a. Tu sais, on a une vie privilégiée à Montréal. On peut marcher pas mal partout, se sentir en sécurité. Tu sais, on voit ce qui arrive dans le Moyen-Orient en ce moment. C'est quelque chose qu'on prend pour acquis, mais il faut pas le prendre pour acquis de ce sentiment de sécurité-là, de pouvoir se promener un peu partout, de pas se sentir quand même en danger. Puis ici, la bouffe, il y a quand même un aspect culturel super important. Puis l'identité québécoise, elle fun. C'est une des raisons que je m'implique dans l'art, il y a aussi ça, c'est l'art, c'est identitaire. On s'identifie à des choses que les gens font, puis ah oui, OK, ça me ressemble, ta. Fait que oui, moi, je choisis Canada, Québec.
Mais c'est ça qui est cool quand on voyage. Souvent, c'est là qu'on réalise combien on est chanceux d'être ici. Parce que tu as raison. Moi, là, je suis dans le plateau en ce moment. Là. J'habite là-bas, puis j'ai comme pas peur pour la sécurité ou la santé de mes enfants. Tu sais, comme on est dans une ville assez sécuritaire. Fait que ça, je pense que c'est la première chose. Puis on a beaucoup de liberté.
Fait que c'est ça.
On est très privilégiés. Là.
Absolument. Puis tu sais, je pense que on est, tu sais, même dans le cadre de cette pandémie-là, on a été un peu restreint de faire certaines choses. Mais tu sais, c'était pour un bien-être collectif. Puis je pense que à the end of the day, on voit maintenant les résultats. Puis ça a marché. Là.
Non, absolument. Je suis d'accord là-dessus. Ils ont pris des décisions difficiles, puis ça n'a pas été populaire, mais ils ont quand même pris les bonnes décisions, puis on regarde les résultats, on s'en est quand même bien tiré, puis je pense que le futur est assez prometteur pour le Canada, pour le Québec. On est sur une bonne vague, puis il y a beaucoup de talent ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs exceptionnels. Je pense que, puis la diversité, tu en as parlé, right? Mais il y a une diversité culturelle ici qui fait qu'on a une grande richesse.
Bien, j'ajouterais, en parlant de diversité, nous, tu sais, à La Ruche, puis je ne vais pas faire mon pitch de vente, mais ce qui fait la grosse différence comparé à un Kickstarter, c'est qu'on a des points de service régionaux. C'est comme ça qu'on sait. Tu sais, on a une plateforme web qui peut aller n'importe où, mais là, en ce moment, on est dans 9 régions au Québec, donc on a une personne qui mène cette région-là, est appuyée par ce qu'on appelle des ambassadeurs locaux. C'est des entrepreneurs locaux, des gens d'affaires, des personnalités de la région qui croient au projet La Ruche puis qui croient aux projets qui sont mis sur La Ruche puis qui les encouragent, qui les conseillent. Fait que ça aussi, ça, on essaie de créer un genre d'écosystème qui rentre dans l'écosystème local, qui ajoute quelque chose pour ces projets-là.
Fait que t'es un humain.
T'es un humain.
Alors que quand t'es sur Kickstarter…
T'as pas d'humain.
Exact. C'est ça que j'ai vu puis ça, j'ai aimé ça parce que je pense que quand tu te lances, t'as envie de parler à un humain, pas
exact.
Un robot.
Puis juste pour te donner juste des chiffres, là, Kickstarter, le taux de réussite, c'est 39 % des projets. C'est-à-dire, tu te fixes un objectif, tu réussis pas. Hein. À La Ruche, c'est 75 % Fait que c'est le double. Puis, quand on a un partenaire qui va donner du financement additionnel, disons que tu réussis puis tu as un autre financement, le taux de réussite, c'est 95 % à La Ruche. Fait que, tu sais, on devient vraiment comme un tremplin vers la réussite là, grâce à la plateforme de financement participatif.
C'est super. Entre Da Vinci ou Dali?
Écoute, moi, je dirais Da Vinci parce que l'artiste, mais aussi avec une partie cartésienne, ingénieur, créateur, inventeur. Puis moi, ça m'interpelle cette dualité-là parce que j'ai fait, comme tu as dit, des études en économie. J'ai aussi fait en finance au HEC un bac marketing finance. Fait que j'ai cette comme creative numbers dualité en moi. Fait que je suis interpellé par Da Vinci, oui, absolument.
En tout cas, tu es un gars intéressant à parler parce qu'on peut toucher tout plein de sujets. Fait que ça, c'est vraiment cool. Entre un cornetto ou un croissant. Là, tu as été à Rome.
Ouais,
tu
ouais.
sais quoi, cornetto?
Oui, oui, oui. Moi, écoute, c'est très difficile. Je mange plus fréquemment des croissants, mais j'aime énormément les cornettos, mais il n'y en a pas tant de bons à Montréal. Fait que, tu sais, il faut trouver. Puis, c'est moins fréquent. Fait que, d'en trouver un bon, là, j'ai trouvé une place proche de chez nous qui s'appelle Il Forno. Puis ils font des bombolone.
Bombolone.
Oui, des bombolone puis des cornetto qui sont excellents. Fait que un petit shout-out au commerce.
Là, j'étais à diète, là. Mais c'est un bon shout-out. Fait que si les gens qui veulent des bons cornetto.
Il Forno. Oui.
Entre Bora Bora ou Rome. Roma.
Rome, for sure.
L'histoire.
Ah.
L'empire.
L'architecture, se promener dans les rues, le monde, la bouffe. Tu sais, à Rome, tu marches, tu t'assois, tu prends un café, c'est bon, tu manges, c'est bon, tout est bon. Là. Fait que. Mais
juste pas aller au mois d'août parce qu'il fait chaud. Ah, là, vraiment.
Je suis allé, moi, quand c'était 2018, deux fois. Une fois en juillet, c'était terrible.
C'est comme un four, là.
Ouais. Puis une fois en octobre, ça, c'était super.
Si vous voulez visiter Rome, allez-y comme à l'automne ou au début du printemps parce que c'est vraiment...
Ouais.
T'as envie de marcher, t'as envie de visiter, puis là, c'est comme tu peux pas, il fait comme...
Il y a pas d'arbre.
Non, c'est ça. Il est au soleil, puis il fait comme 43 degrés Celsius. Non, c'est quelque chose. Si t'avais à choisir entre le Chili ou l'Australie avec tes origines...
Oh! Tough one. Hey boy! Je pense que je dirais l'Australie et parce que je suis allé plus souvent, puis je connais mieux... l'Australie. Mais ça pourrait être, le Chili, ça pourrait être intéressant.
Est-ce que tu es un gars crypto?
Oui, je suis un gars crypto.
Oui?
Je suis un gars crypto. Mais c'est récent, là. Ça fait moins d'un an, mais je suis là-dedans, là.
Je crois que c'est, puis là, on parle de la crypto-monnaie.
Oui, oui.
Tu crois que ça peut être comme dans le futur, là, on va être sur...
Ben, ce que je vois, c'est, je pense qu'il y a à peu près 2 % de la population mondiale qui connaît ou touche les cryptos en ce moment, donc c'est pas beaucoup. Dans ce 2 %-là, 80 % ont en bas de 30 ans. Fait que je me dis, à un moment donné, ces gens-là vont avoir pas mal d'argent, puis des entreprises vont vouloir avoir cet argent-là pour qu'ils dépensent sur des produits, des services. Mmh. Alors, si tu peux pas leur donner accès de dépenser cet argent-là, ben peut-être que tu vas perdre une opportunité d'affaires plus tard. Fait que les gens qui vont être first to market à accepter ça, ben c'est une facilité de paiement. Ben moi, je pense que oui.
En ce moment, c'est dur d'accepter ça à cause de la volatilité. Un jour, ça vaut 50 000, le lendemain, ça vaut 30. Mais effectivement, quand ça va être plus stable, je pense qu'on devrait commencer à accepter des coins. Puis si moi, j'ai une idée, exemple, Nicolas, de lancer le Rubino Coin.
Oui.
Puis là, je t'appelle. Toi, tu peux m'aider à mettre ça sur la ruche.
Hey boy! Ça, c'est... Il faudrait déterminer c'est quoi que tu vas vendre. Tu vas vendre le coin, mais qu'est-ce que c'est... Quel problème es-tu en train de résoudre?
Décentraliser l'argent des...
Faudrait que tu m'appelles.
OK, on va s'appeler Nicolas. Ouais.
Mais juste, le nom est bon. Déjà en partant,
tu sais, Rubino
Coin. Ouais, tu sais qu'en partant, ça peut être excellent.
Un j'ai bon pensé nom. À ça on the fly. Ouais. Fait que s'il y en a qui veulent un partenariat pour lancer le Rubino Coin, allez-y, appelez-moi.
Si tu peux être encore plus cool, tu peux être le Rubino NFT. Tu sais,
NFT.
Ouais.
Ça aussi, hein, d'ailleurs, ouais. NFT, là, c'est ça le futur?
Ben, je pense que, tu sais, on le sait pas, mais tu sais, d'avoir de l'art numérique, à quelque part, il y a des gens qui vont l'acheter. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les prix sont fous en ce moment sur certains NFT. Puis quand les prix sont trop élevés, ça vient diminuer l'intégrité artistique. Tu sais, la personne avait une vision, elle avait quelque chose qu'elle voulait dire, un message qu'elle voulait passer comme un artiste. C'est ça qui les interpelle pour faire de la création. Mais quand tu vends ta création 50 millions, là, tu fais « Ah, ben je vais faire une autre création comme ça. » Fait que l'originalité, l'intégrité, pour moi, il y a un danger, là. Tu sais, comme Van Gogh, ça vaut 60 millions là, ou 100 millions, mais lui, il n'a jamais vendu ça, ce prix-là. Lui, il a créé.
Il a créé qu'est-ce qu'il voulait.
Il a créé ce qu'il voulait.
Après sa mort, ça l'a comme
pris. Exactement.
Effectivement, c'est un bon point. Si tu avais un livre à recommander à un entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat.
J'en ai deux. Fait que, tu sais, je respecte pas ton truc.
Deux, ça fonctionne.
J'en ai un que je lis souvent, je relis souvent, qui s'appelle Tools of Titans. Puis je te le conseille fortement. C'est un livre de Tim Ferriss qui a écrit The 4-Hour Work Week.
Il y a quelqu'un qui est ici, là, qui est notre producteur de Un Expresso avec Angelo. Son nom, c'est Francis Parent-Valiquette.
OK. Et
lui, qu'est-ce qu'il fait? Là, sa business est incroyable. OK. Lui, il aide des entrepreneurs comme moi, à lancer leur podcast.
Ouais.
Puis lui, il n'arrête pas de me parler de Tim Ferriss.
Bon.
Fait que shout-out à Francis Parent-Valiquette. Fait que toi, le livre…
Tools of Titans.
The Tools of Titans.
Ce qui est intéressant, c'est un livre d'à peu près 1000 pages où il… il résume ses entrevues podcast qu'il y a avec…
plein d'entrepreneurs, d'invités.
Plein de monde. Toutes des gens qui ont réussi dans des sphères différentes. Mm-hmm. Ça peut être… des Olympiens, ça peut être des gens de la business, ça peut être... puis, ils leur posent souvent les mêmes questions pour pouvoir comparer. Fait que ça, c'est super intéressant. Donc, tu sais, s'il y a un personnage qui ne t'intéresse pas, ben, tu sautes, tu vas au prochain. C'est 4 pages par personne. Fait que ça, c'est...
Tools of Titans, puis dans le fond, c'est des gens qui réussissent. Parce que Francis m'a parlé un petit peu de Tim Ferriss. C'est des gens qui réussissent dans tous les domaines, dans plusieurs domaines.
Ouais.
Fait que ça, c'est un super bon filon pour nous, Nicolas. Ouais. Parce que moi, c'est une affaire qui était vraiment importante dans ma vie. Je me suis recentré un petit peu il y a quelques années, puis j'ai décidé de donner beaucoup plus d'importance à la famille, à la croissance personnelle, que ce soit autant l'entraînement physique que mental, la croissance personnelle, qui est comme super importante pour moi, plutôt que juste le succès, puis l'argent, puis la réussite. Comment est-ce que tu entrevois ça? Est-ce que c'est possible de réussir, puis à la Tim Ferriss, puis on va revenir sur ton deuxième livre.
Oui, parfait.
On fait une parenthèse.
Ouais.
Est-ce que c'est possible de réussir dans tous les domaines?
Bien, je pense que c'est une question de focus. Hein. Tu sais, tout est une question de focus. Je vais te donner l'exemple de Sidney Crosby, qui est comme le meilleur joueur au monde. Fait que lui, ce qu'il faisait pour s'améliorer, c'est que, disons, il n'était pas bon dans les face-offs, dans les mises en jeu. Pendant 3 mois, c'est tout ce qu'il faisait. Pratiquait pas son tir, pratiquait pas les autres affaires. Puis après, pendant 3 autres mois, il mettait en application tout où il s'était amélioré. Et c'est comme ça, il se bâtissait un nouveau skill set sur cette affaire-là. Puis ensuite, il passait à une autre affaire. Fait que tu sais, je pense que la clé dans tout, c'est de se donner un focus, se donner une chance de faire des erreurs. Tu sais, on apprend de nos erreurs, là.
C'est là qu'on apprend le plus.
Exactement. Tu sais, comme tu disais, la forme physique, je pense que la seule façon de réussir là-dessus, c'est d'avoir une certaine discipline, mais aussi se donner, de dire, tu sais, la journée où tu rates, c'est correct aussi, là. Mais si tu as une discipline, tu sais que les résultats vont venir.
Exact.
D'ailleurs, moi, pendant la pandémie, j'ai eu le temps de, tu sais, le premier confinement, je me suis mis en shape. Après, pas dépression, mais tu sais, un peu plus déprimé, j'ai regrossi.
J'ai suivi le cycle des vagues.
Puis là, je suis rendu dans le deuxième cycle de la remise en forme. Là. Fait que.
You look good.
Quand on essaye.
Fait que le premier livre.
Ouais, Tools of Titans.
Tools of Titans. Et le deuxième.
Alors, le deuxième, c'est Principles de Ray Dalio, qui est un hedge fund manager qui a environ 400 milliards sous gestion. Et lui, il y a des principes d'affaires. Tu sais, c'est plus pour des entrepreneurs aguerris, mais il y a des super belles leçons. Lui, il est tout dans l'hyper honnêteté pour aller chercher pourquoi les gens pensent comme ils pensent. Tu sais, puis tu sais, il donne des exemples fun. Il dit, prends jamais un conseil de quelqu'un qui a pas réussi la chose sur laquelle il te conseille, puis il l'a pas réussi trois fois, puis qui est capable d'expliquer pourquoi il a réussi ces trois fois-là. Sinon, ce conseil-là, il est pas valable.
Ça, c'est un très bon conseil. Ouais. Moi, je crois que pour réussir, il faut que tu t'entoures de gens qui aiment gagner puis qui gagnent.
Oui, ça, c'est dans... Écoute, c'est drôle que tu parles de ça. Ray Dalio parle beaucoup de ça, de l'équipe, tu sais, de s'entourer de personnes meilleures que soi qui te permettent d'améliorer les choses que tu as envie d'améliorer. Il dit aussi... trouve la personne la plus crédible qui pense le contraire de toi, puis essaie de comprendre pourquoi. Puis ça va t'aider.
C'est super. Moi, je pense que effectivement, les gens qui t'entourent, ils vont avoir un impact sur toi. Si ton meilleur ami, c'est quelqu'un qui fait pas trop de sport puis qui fume la cigarette, ben ça se peut que tu deviennes à son image. À ce niveau-là, j'ai décidé de m'entourer de gens comme toi qui réussissent, qui ont une bonne balance dans la vie, un équilibre, parce qu'à la fin de la journée, c'est toute une question d'équilibre. Puis je pense que le but de ce podcast-là, c'était ça, de rencontrer aussi des gens puis d'établir des liens. Fait que j'espère qu'on va garder un bon lien, Nicolas.
Absolument.
C'est là que je voulais en venir.
Absolument.
C'est que dans mon livre à moi, là, tu sais, c'est,
ouais.
Puis là, faudrait-tu mettre une photo dans mon livre à moi avec Angelo. Je pense que tu es un gars qui a réussi. Puis la réussite, après ça, c'est personnel à chacun. Mais je suis très impressionné. J'apprécie le fait que tu es venu ici aujourd'hui. Puis je trouve qu'on a eu une super belle conversation.
Ben merci.
Notre épisode qui tire à sa fin.
Ouais.
Fait que j'aimerais ça te céder le micro pour que tu puisses plugger dans le fond, tout ce que tu veux, mon ami.
Super.
Le micro est à toi. Puis là, je vais faire quelque chose que je fais rarement.
Ouais.
Je vais me taire.
OK. Ben un, je t'ai amené un livre. Je t'ai amené « Principles » de Ray Dalio en guise de cadeau de cette belle invitation, puis pour l'espresso et les souliers.
Wow.
Deux, tu sais, on a... J'aimerais ça plugger encore des jardins, juste dire que c'est un partenaire incroyable dans notre progression à la ruche. Puis il croit vraiment au développement local, que ce soit économique, que ce soit culturel, que ce soit social. Tu sais, ils ont une volonté d'aider les régions. Puis à La Ruche aussi, on est appuyé par le gouvernement du Québec. Puis aussi, je veux donner un shout-out au gouvernement du Québec. On est appuyé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation puis le secrétaire à la Jeunesse du Québec. Et ils nous aident dans notre mission, mais ils nous aident aussi à financer des projets innovateurs, des projets jeunesse qui n'auraient jamais vu le jour si ce n'était pas de eux. Puis j'ai un projet à donner comme exemple que j'ai trouvé malade, puis je finis avec ça. Ça s'appelle les vélos off the grid. C'est deux gars qui ont 22 ans, qui ont créé un vélo de spinning éco-responsable pour des gyms puis des écoles où l'énergie que tu crées pendant ton spinning est réinjectée dans ton circuit électrique puis ça donne des crédits. Ouais, ça donne des crédits sur ta facture électrique. Fait que tu sais, des idées comme ça.
Comment ça s'appelle?
Off the grid.
Off the grid.
Vélo off the grid.
OK, il faut que je check ça.
Ouais. Charles Couture et Sébastien... Julien, je pense, les deux entrepreneurs.
Notre producteur va mettre le lien.
Ouais.
Fait que ça, c'est super cool.
Fait que c'est des idées de même. Moi, ça motive. Puis, tu sais, c'est grâce à les gens qui contribuent, notre communauté d'ambassadeurs dont je t'ai parlé. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça t'inviter à devenir ambassadeur de La Ruche Montréal si ça t'intéresse. Puis je pourrais te dire ce que ça implique. Et, tu sais, nos partenaires comme Desjardins, le gouvernement du Québec, puis on a plein de partenaires locaux dans chacune de nos ruches, puis j'aimerais ça les remercier aussi. Là.
Ben écoute, merci pour cette invitation-là. Moi, j'accepte très fièrement d'être ambassadeur, avant même que tu m'expliques qu'est-ce que...
C'est super, ça.
J'adore votre mission. Je suis impliqué aussi avec Desjardins sur le conseil d'administration. C'est la caisse ici dans l'est de Montréal, ouais, qui est Sauré-Calais, Montréal-Nord. Fait que c'est pour ça que j'ai connu aussi la ruche. Puis qu'est-ce que j'ai aimé de Desjardins? Puis moi aussi, je vous laisse là-dessus. C'est que Desjardins, c'est eux autres qui redonnent le plus localement. Puis quand on regarde là, leur comité de commandite et de dons, c'est incroyable. Premièrement, c'est une coopérative.
Ouais.
Fait que tout ce qu'ils ont, bien, ils redonnent localement pour des projets, des gens, des fondations. Fait que ça m'a permis d'être en contact avec plein de monde. Puis ce matin, j'étais en contact avec une autre fondation de Montréal-Nord. Puis ils m'ont demandé d'être coprésident d'honneur de leur campagne de financement. Fait que ça m'a permis d'avoir ces contacts-là, puis de moi pouvoir m'impliquer localement. Fait que je pense que c'est ça la clé de la réussite, c'est de redonner. Puis quand tu aides les autres, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu t'aides toi-même.
Fait ouais, que, puis ça revient. Tu sais, je pense que tout ce que tu mets dans l'univers, ça te revient à quelque part. Quand tu mets du bon, ça te revient.
Je suis à 100% d'accord là-dessus. Fait que on va se quitter sur ces paroles.
Yes.
Et je vous dis que it's a wrap. Ciao, merci Nicolas.
Merci,
j'espère
à toi,
qu'on va se revoir.
Ben oui, absolument. J'ai hâte d'aller prendre un drink sur une terrasse cet été quand ça va être permis. Puis on va célébrer la réussite de ton super podcast.